Bonjour à tous, tous ceux que je n'ai pas encore vus, bonjour.
Est-ce que vous m'entendez tous correctement?
Moyen, moyen.
On est sourds là.
Et est-ce que comme ça c'est mieux?
Ouais.
C'est déjà mieux?
Ouais, c'est mieux.
Bon, ok. Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour Geoffrey.
Bonjour. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles, on va passer ensemble un moment dans la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous nourrit. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu ce matin, que ce soit dans ce que François nous a partagé ou dans les prières des uns et des autres. La parole de Dieu nous nourrit. Le Seigneur lui-même est une source d'eau vive pour nous. Nous avons besoin de cette eau pour être nourris, pour pouvoir continuer à grandir. Et ça m'a fait plaisir d'entendre ces choses parce que j'aimerais les réutiliser. Et je vous invite, on va prendre ce matin ensemble le psaume numéro 1. Nous rattaquons une nouvelle année, 2021, une année qui sera peut-être difficile. En tout cas, vu comment on a fini 2020, on ne sait pas trop où est-ce que nous allons. Et j'avais à cœur pour cette première prédication que je fais parmi vous, pour ce mois de janvier, de revenir peut-être à la base, revenir quelque chose de simple, quelque chose d'efficace, quelque chose qui pourra nourrir nos âmes et nous pousser toujours à nous confier dans le Seigneur. À nous positionner aussi, à savoir où est notre place, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Vous verrez que dans ce psaume, il est beaucoup question de se trouver au bon endroit, et j'ai trouvé marquant de voir que ce que le Seigneur nous demande, ce que le psalmiste ici met en lumière, c'est que nous devons être à la bonne place, au bon endroit. La place des psaumes dans l'Écriture est assez particulière. Peut-être que si je vous demandais à tous quel serait le livre que vous avez le plus lu, peut-être que ce serait celui des psaumes qui viendrait. Et je trouve qu'effectivement c'est un livre qui est magnifique pour la lecture quotidienne de la parole de Dieu que nous pouvons avoir, parce que c'est un livre qui nous parle très rapidement et très facilement. Les psalmistes qui ont rédigé les psaumes ont mis beaucoup d'eux-mêmes dans ce qu'ils écrivent, on ressent leurs émotions, et on peut facilement se les approprier lorsque nous vivons des choses similaires à ce qui est écrit dans ces psaumes. Quelqu'un disait que dans les psaumes, on retrouve toute l'anatomie de l'âme humaine, tous les sentiments par lesquels on peut passer, la joie, la peine, la colère, toutes ces choses, on peut les retrouver dans les psaumes. Aussi intéressant, sur le livre des psaumes, sur les 200 citations que nous trouvons dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, eh bien, plus de la moitié concerne les psaumes. C'est le livre qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Et j'avais donc à cœur qu'on prenne aujourd'hui le psaume 1, et peut-être qu'une autre fois nous prendrons aussi le psaume 2, parce qu'il est possible de les lire ensemble, le psaume 1 et 2. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous prenez la première phrase du psaume 1 et la dernière phrase du psaume 2, vous verrez que l'on retrouve la même formulation. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, pour le premier verset, et pour le dernier, heureux tous ceux qui se confient en lui. Une formule qui revient, heureux celui qui, et qui nous fait bien évidemment penser à ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, lorsqu'il a fait le sermon sur la montagne et qu'il a commencé par ce qu'on appelle aujourd'hui les béatitudes. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, heureux ceux qui, car le royaume des cieux est à eux. Toutes ces choses où le Seigneur appelle la bénédiction d'être heureux, le bonheur, sur ceux qui mettent en pratique ce qui est dit. C'est donc ces deux versets qui vont entourer le psaume 1 et le psaume 2, qui peuvent être lus comme une introduction pour tout le livre des psaumes. On voit dans ces deux psaumes les choses importantes, la base sur laquelle on peut s'appuyer pour vivre les psaumes, pour pouvoir en profiter pleinement, comme aussi ceux qui les ont rédigés ont pu vivre des choses avec Dieu et les intérioriser, traverser les épreuves, vivre les moments de joie avec le Seigneur. Et c'est ce que je nous souhaite à tous pour cette nouvelle année 2021. Peu importe où nous allons, peu importe où ce monde se dirige, Le Seigneur veut que nous trouvions en lui ce rocher sûr, cet appui fidèle qui ne défaille jamais. Nous allons commencer à lire notre psaume et j'aimerais déjà lire les trois premiers versets de ce psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce premier psaume nous présente deux façons de mener notre vie. Et pour ces trois premiers versets, nous avons lu la première façon de conduire sa vie, cette façon de construire sa vie, de suivre une voie, concerne l'homme qui s'attache à Dieu. Dans la description d'un tel homme, vous avez remarqué peut-être qu'il est question de marcher, de se tenir debout et de s'asseoir, ce qui pourrait correspondre au geste un peu de la vie quotidienne. On est donc ici dans la vie de tous les jours, et le psalmiste avertit avec une bénédiction que celui qui ne s'associe pas d'un côté aux méchants ou aux pécheurs ou aux moqueurs, celui-là trouvera son bonheur auprès de Dieu. Le Seigneur donc veut demander à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui veulent marcher dans ses voies pour trouver le bonheur que l'on peut trouver en Dieu, de veiller sur ses voies et de faire un tri, de fuir certaines choses, de s'écarter de certaines personnes pour se concentrer sur lui. La question n'est pas, bien évidemment, de ne pas avoir de relation avec ceux qui peuvent être des méchants ou des pécheurs ou des moqueurs, parce qu'ailleurs dans l'Écriture, le Seigneur met beaucoup d'importance sur le fait d'être un témoignage vivant. Mais vous comprenez ici qu'il s'agit de ne pas s'associer, de ne pas se lier avec des personnes qui ne marchent pas selon les voies de l'Éternel. Nous ne pouvons pas d'un côté vouloir nous attacher à Dieu si nous nous attachons aussi de l'autre côté aux principes de ce monde, pour la loi du plus fort, chacun pour soi, vivre selon le conseil des méchants, s'arrêter sur la voie des pécheurs et s'asseoir en compagnie des moqueurs. Un tel homme, le Seigneur l'engage bien plus par le psalmiste, a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans sa parole, la parole de Dieu, ainsi que de la méditer jour et nuit. Et par là, le Seigneur ne veut probablement pas nous faire comprendre que nous devons nous lever parfois à 2h, 3h du matin pour lire la parole de Dieu, lorsqu'il s'agit de méditer la parole la nuit, mais je pense qu'il s'agit bien plus des bons et des mauvais jours. Lorsque nous sommes dans l'abondance, lorsque tout va bien, lorsque les circonstances sont favorables, le Seigneur nous demande de méditer sa parole. Et lorsque tout va mal, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes dépassés, lorsque nous avons l'impression de nous noyer, le Seigneur nous engage aussi à méditer sa parole pour trouver auprès de lui ce refuge dont nous avons tant besoin. Et pour rendre les choses très concrètes, le psalmiste utilise une image que nous connaissons bien, l'image d'un arbre. Le croyant ici est associé à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et je trouve intéressant de souligner que dans cette image qui nous est donnée, le courant d'eau, c'est l'Éternel lui-même, c'est la parole aussi de l'Éternel, sa parole, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour grandir, pour pouvoir vivre et nous développer pour ne pas dépérir. Nous serons tous d'accord qu'un arbre, il aura forcément besoin d'eau, ou n'importe quelle plante, si on ne l'arrose pas et qu'il ne pleut pas, eh bien ça ne va pas lui faire du bien. Et si cet état se prolonge, elle va finir par dépérir et par mourir. Ainsi, le Seigneur est aussi pour nous celui dont nous avons le plus besoin. Nous avons besoin de cette eau que le Seigneur nous donne par sa parole, pour pouvoir être plein de vie, pour pouvoir affronter les différentes saisons Que ce soit le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, nous avons toujours besoin de cette eau, de la parole de Dieu, pour nous nourrir. Vous voyez aussi, toujours dans ce verset 3, qu'un tel homme qui est planté près de ce courant d'eau, qui a ses racines, qui rejoignent la parole de Dieu pour se nourrir, eh bien, il porte du fruit en sa saison. Ce qui nous montre encore une fois ici qu'il y a parfois des saisons qui sont bonnes et des saisons qui sont peut-être moins bonnes. Peut-être que pour nous, en ce moment, nous affrontons l'hiver, que ce soit à l'extérieur, dans les conditions climatiques ou dans nos cœurs. C'est peut-être aussi l'hiver, nous sentons peut-être une certaine sécheresse. Cela fait partie des expériences de la vie. Il y a parfois, au niveau de notre spiritualité, de notre confiance en Dieu aussi, des hauts et des bas. Nous voudrions être toujours constants, être toujours au top, toujours en été. Mais bien évidemment, je pense que nous pouvons tous dire que parfois, il y a des moments où c'est difficile, où nous avons du mal à nous aligner avec la pensée de Dieu. Nous avons du mal à nous plonger dans sa parole pour être nourris. Ou parfois même, lorsque nous lisons sa parole, eh bien nous avons l'impression de ne rien recevoir. Cela fait partie de l'expérience du croyant. C'est douloureux, mais le Seigneur aussi nous apprend la patience. Il nous apprend la persévérance, l'importance de toujours rester accroché au rocher, peu importe les circonstances autour de nous ou à l'intérieur de nous. Un arbre qui donne donc son fruit en sa saison, mais malgré tout, dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et je trouve intéressant de voir ici que ce fameux arbre dont il est question, il porte du fruit dans sa saison, donc pas tout le temps, mais par contre, son feuillage, lui, ne flétrit jamais. Le feuillage qui permet à un arbre, toujours dans l'image, de pouvoir capter les rayons du soleil pour faire la photosynthèse et aussi pour recevoir des nutriments, et qui nous montre que malgré tout, même si nous nous sentons secs, même si nous avons du mal à porter du fruit, nous avons du mal à voir l'œuvre de Dieu dans notre vie, en tant que croyants, plantés près de ce courant d'eau, nous sommes toujours aussi nourris par la lumière du soleil, par le Seigneur aussi lui-même qui représente pour nous le soleil et qui va nous nourrir au travers de ce feuillage qui ne se flétrit jamais. Si bien que, même si nous sommes secs, ce que nous pouvons entreprendre est aussi couronné de succès. Quand bien même nous ne le voyons pas de nos yeux, le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Pas seulement lorsque c'est le printemps ou l'été dans notre cœur, dans notre foi, dans notre piété avec Dieu, mais aussi au cœur de la nuit, dans l'automne ou dans l'hiver. Le Seigneur bénit aussi l'ouvrage de nos mains. Même si nous ne le voyons pas, un jour tout sera mis en lumière et nous serons éblouis, chers amis, de voir tout ce que le Seigneur a fait lorsque nous étions faibles. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le juste, celui qui marche dans les voies de Dieu, se tient près de l'eau. Il est cet arbre qui grandit et qui nous montre en fait cette relation de dépendance entre nous et Dieu. Et j'aimerais vous lire un passage dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, un passage que nous connaissons bien. Je vais vous lire les versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Et j'ai trouvé que ce verset a beaucoup de lien avec ce qu'on vient de lire, ce premier psaume, ce psaume 1, « Le Seigneur nous voit aussi comme une plantation, ces fameux térébintes qui sont des arbres, une plantation de l'Éternel, afin de servir à sa gloire. » Et j'ai trouvé beau de voir ici que c'est l'Éternel qui s'engage dans ces versets que Ésaïe nous donne. Le Seigneur a été envoyé pour accomplir ces choses pour nous. C'est lui qui fait en sorte que nous soyons ces arbres pour Dieu, que nous soyons cette plantation dont Dieu va prendre soin. Ce n'est pas nous qui avons cherché l'Éternel, mais c'est lui qui nous a cherché le premier. Et c'est lui qui nous a transplantés près de ce courant d'eau. Je ne sais pas si vous saviez, mais dans notre psaume 1, lorsqu'il est question au verset 3 d'un arbre planté près d'un courant d'eau, il serait peut-être plus juste de traduire en disant un arbre transplanté près d'un courant d'eau. Si l'on se penche sur la langue originelle, il est plus question d'être transplanté que simplement d'être planté. Et je trouve que c'est riche aussi pour nous de réaliser que lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous ne connaissions pas Dieu. Nous ne lui appartenions pas. Nous avons grandi dans notre propre terre, dans notre propre terreau, plus ou moins fertile, loin de l'Éternel, loin du ruisseau qui donne la vie. Mais le Seigneur est venu nous chercher par Jésus-Christ. Il nous a arrachés à cette mauvaise terre où nous étions et il nous a plantés dans une bonne terre, près de ce fameux courant d'eau, pour que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Et c'est ici toute l'importance du fait que Dieu agit pour nous. Il n'est pas question ici, en tout cas dans ce psaume 1 pour nous, de ce que nous devons faire, mais beaucoup plus à quel endroit est-ce que nous devons être. Est-ce que nous devons être près du conseil des méchants, sur la voie des pécheurs, en compagnie des moqueurs, ou bien plutôt enracinés et fondés auprès de Dieu, auprès de sa parole, pour que nous puissions grandir dans ses voies à lui. Nous allons maintenant continuer et terminer notre psaume 1. Je vais reprendre au verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et le psalmiste ici nous lance aussi un avertissement, parce que si ceux qui sont plantés près de ce courant d'eau sont bien heureux, le bonheur est pour eux, à l'inverse, celui ou ceux qui sont appelés méchants dans notre texte ne connaissent pas ce même bonheur. Et encore une fois, le psalmiste va utiliser une image. S'il a parlé du croyant comme étant un arbre planté près du courant d'eau, il parle ici du méchant qui est comme la paille que le vent dissipe. La paille que le vent dissipe, c'est quelque chose de futile, quelque chose d'inutile, quelque chose qui disparaît avec la moindre brise de vent. Il est encore ici question d'une image qui est liée à la nature. Plusieurs fois dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, il est question de paille, avec peut-être certains textes vous reviennent en tête, une question de tri sélectif que l'agriculteur va opérer quand il récolte sa moisson. Et pour rentrer un peu dans cette image, lorsque un agriculteur fait pousser du blé et que le moment de la récolte arrive, comment est-ce qu'il faisait à l'époque ? Aujourd'hui, on a beaucoup d'outillage, mais à l'époque, on coupait tout à la main, à la faucille. Et puis, on agitait la récolte, on la battait avec un bâton pour que le grain qui est à l'intérieur de l'épi de blé, notamment, puisse se détacher de ce qu'on appelle la balle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il y a le grain et il y a la balle. Le grain est à l'intérieur de la balle. Et nous, ce qu'on veut récupérer quand on est agriculteur, c'est le grain. La balle, on n'en a pas besoin, on n'en veut pas. Et donc, on va battre le blé pour que le grain se sépare. Et ensuite, on va le jeter en l'air. On jette le tout en l'air, et avec le vent qu'il y a, le vent va emmener la balle, qui est toute légère, qui ne pèse presque rien, et le grain, lui, qui est lourd, qui pèse, il va retomber au sol. La balle est emportée par le vent, et l'agriculteur peut récupérer son grain pour pouvoir en faire ce qu'il a prévu. Et c'est ici cette image qui nous est donnée par ce psalmiste. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils ne comptent pas, ils sont proches du grain, ils sont mêlés ensemble, mais ils n'ont pas la même utilité. Et le Seigneur ici aussi nous interpelle sur le fait que un jour il y aura un tri. Un jour, lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, l'humanité sera départagée entre ceux qui sont ces fameux térébintes de la justice, ceux qui sont plantés près du courant d'eau, ceux qui connaissent le Seigneur et qui marchent dans ses voies, et ceux qui ne le souhaitent pas, ceux qui ont préféré mener leur propre vie, une vie futile, selon les futilités de ce monde, accordant de l'importance à ce qui n'en a pas, et négligeant les vraies réalités qui comptent, les réalités qui sont auprès de Dieu. C'est la métaphore, en fait, d'une vie qui n'est pas conséquente avec les réalités spirituelles qui ne sont pas visibles. Une vie qui ne pèse pas lourd par rapport au Seigneur, par rapport à l'Éternel, et qui, ultimement, disparaîtra. Pour un tel homme, le jugement est sans appel. Le psalmiste nous dit qu'ils ne peuvent résister au jour du jugement, où le Seigneur amassera son blé dans son grenier, mais où il jettera et brûlera la paille qui a été rebelle contre lui et qui n'a pas voulu être au bénéfice de son œuvre. Encore une fois, qu'est-ce qui fait que nous sommes du blé ou de la paille ou de la balle ? C'est le fait d'avoir été transplanté par le Seigneur. Il est question de se laisser toucher par Dieu, de s'approcher de lui, de le rechercher, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, pour être transplanté auprès de Dieu, là où il y a de l'eau vive. Quelle est la raison de cette condamnation ? Pourquoi y a-t-il ce tri avec ce jugement que le Seigneur va opérer ? Le Seigneur nous dit au verset 6 qu'il connaît la voie des justes. Elle a été décrite juste au début de notre psaume, dans ces trois premiers versets. Et ceux qui ne suivent pas cette voie sont sur la route de la perdition. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez lu le livre « Le voyage du pèlerin », un livre assez connu dans nos milieux, où nous voyons dans ce livre qu'il y a une route large et une route étroite, qui est repris aussi de textes du Nouveau Testament. Et nous voyons, lorsque nous suivons le chemin de ce pèlerin, qu'un seul sentier mène à la vie, mais qu'il y en a beaucoup d'autres sentiers, beaucoup d'autres façons de se détourner du droit chemin pour suivre une route plus agréable, moins dangereuse en apparence, alors que tous ces chemins mènent au même endroit, à la perdition. C'est un peu comme un entonnoir, il y a beaucoup de chemins possibles qui mènent à une seule et unique direction, la perdition, alors que, à l'inverse, le chemin des justes, ceux qui marchent selon l'Éternel, emprunte un chemin qui peut sembler très étroit, mais qui pourtant mène ultimement à la richesse, toute la richesse de la vie que nous pourrons avoir auprès de Dieu. Lorsque nous serons auprès de lui, nous pourrons profiter de tous ses bienfaits. Nous pourrons le voir, lui, tel qu'il est, vraiment. Être dans sa présence, ne plus connaître aucune peine, aucun trouble, mais être dans cette félicité que le Seigneur nous a promise. Et c'est là aussi que j'aimerais rappeler à notre souvenir ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. J'aimerais conclure en nous rappelant l'importance de nous trouver au bon endroit. Je pense que c'est l'idée principale qui ressort de notre texte de ce matin, se trouver au bon endroit. Non pas forcément faire des choses, mais être au bon endroit. Le Seigneur nous appelle à nous laisser transplanter par lui, auprès du courant d'eau, ce qui implique pour nous une forme de renoncement. Parce que si nous suivons nos propres voies, si nous marchons selon notre propre intelligence, enfin, je parle pour moi, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais si je me laisse guider par ce qui, moi, me vient à l'esprit, eh bien, où est-ce que je vais aller ? Eh bien, je vais marcher selon le conseil de méchants, je m'arrêterai sur la voie des pécheurs, et je m'assierai en compagnie des moqueurs. Voilà la réalité de où est-ce que nous, de notre propre nature, nous sommes, où est-ce que nous voulons aller. Mais, heureusement pour nous, le Seigneur a agi. Le Seigneur nous a arrachés à cette mentalité, à cette façon de penser, de se laisser guider par les choses de ce monde. Et il nous demande de nous attacher aux choses qui comptent. Et ça implique pour nous nécessairement un effort, de veiller à nous trouver au bon endroit, auprès de Dieu, et à persévérer, même au cœur de la nuit, lorsque tout est noir, lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes dans la souffrance. Le Seigneur nous demande de nous trouver au bon endroit, à la fois un pied sur la terre, parce que nous vivons dans ce monde, mais aussi un pied au ciel, où nous régnons avec Christ, où nous sommes déjà assis avec le Seigneur dans les lieux célestes. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te demander ton secours. Nous voulons te demander ta direction, Seigneur, pour cette nouvelle année 2021, pleine de défis, Seigneur, pleine de changements pour nous tous. Et nous voulons aussi, Seigneur, regarder en arrière et te dire tout simplement merci parce que tu nous as gardés. Merci pour tout le chemin que tu nous as fait parcourir avec toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité qui se poursuit d'âge en âge. Merci Seigneur parce que nous pouvons compter sur toi pour l'avenir. Et nous voulons renouveler Seigneur aujourd'hui cette confiance envers toi. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous garder auprès de toi, de nous garder dans ta main Seigneur, et de nous transplanter près de ce courant d'eau, près de ce fleuve d'eau vive Seigneur, parce que nous avons besoin d'être nourris par toi. Aide-nous Seigneur à mettre les bonnes priorités dans notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas céder aux diverses tentations auxquelles nous pouvons être exposés. Tu vois, Seigneur, que nous sommes beaucoup sollicités de tous les côtés, mais nous voulons, Seigneur, nous savons que ce qui compte vraiment, c'est de demeurer attachés à toi. Veille sur nos cœurs, veille sur nos âmes, Seigneur, et viens nous nourrir pour cette nouvelle année 2021. Amen.
Amen.